VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. La CPI, la Cour pénale internationale, a déclaré ce jeudi que le djihadiste malien Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi avait provoqué pour 2,7 millions d'euros de dégâts en faisant détruire les mausolées de Tombouctou dans le nord du Mali en 2012. Le tribunal de la Haye a ordonné le versement de compensation pour dédommager les victimes. Toutefois, étant donné l'indigence du djihadiste, la Cour encourage le fonds au profit des victimes. Organe indépendant mis en place par le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, a complété les réparations ordonnées et levé des fonds à cette fin. Créé en 2004, ce fonds, qui reçoit des contributions volontaires versées par les gouvernements membres de la CPI, des organisations internationales et des particuliers, devra présenter d'ici au 16 février un projet de plan de mise en œuvre des réparations. Rappelons qu'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a été condamné en septembre dernier à 9 ans de prison pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la porte de la mosquée Sidi Yahya et 9 des mausolées de Tombouctou classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En Sierra Leone, des habitants observent une semaine de deuil national en hommage aux morts, dont plus de 100 enfants, emportés par les coulées de boue et les inondations qui ont frappé lundi Freetown. Les deux priorités des secouristes dans la capitale, dégager les victimes des décombres et aider les sinistrés, selon Gina Moulissa.
Les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus, parfois à l'aide d'engins de chantier, parfois avec des outils de fortune. À la morgue centrale, les habitants tentent d'identifier leurs proches dans des amas de corps. Abdoul Nassir de la Croix-Rouge internationale a expliqué que quand les os se sont retirés, ils ont trouvé 15 corps mutilés en décomposition sous un pont effondré à Lumlé, un quartier du bas de la ville inondée lundi. Ils pensent que le bilan sera plus élevé que les 312 morts officiellement recensés. Des responsables à la morgue centrale de la capitale sierra-léonaise parlent déjà d'au moins 400 morts. Mohamed Siné Camara, un employé de la morgue, a précisé que ce service a reçu les corps des 105 enfants. Selon Adèle Fox, coordinatrice santé pour l'ONG Concern Worldwide, il y a un besoin en nourriture, en eau, en équipement sanitaire et en aide médicale. Compte tenu de la saison des pluies, d'autres inondations sont encore possibles, a-t-elle prévenu. L'aide internationale a commencé à arriver en Sierra Leone à l'intention des milliers de survivants, désormais sans abri.
En RDC, 40 morts, tel est le bilan d'un glissement de terrain mercredi qui a englouti un village de pêcheurs en Ituri sur le versant occidental du lac Albert, dans le nord-est du pays. Des pentes d'une montagne se sont affaissées sur un camp de pêcheurs à la suite d'une forte pluie qui a provoqué un glissement de terrain sur le bord du lac Albert. Et il y a eu 40 morts dans la localité de Tora, a déclaré à l'AFP. Pacifique Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri. Et toujours en RDC, le choléra progresse dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanza Nangunia, tire la sonnette d'alarme et exhorte les populations à prendre en urgence des mesures d'hygiène.
Depuis des semaines, nous connaissons une flambée des cas de choléra sur presque toute l'étendue de la province du Sud Kivu. La zone de santé de Fizi passe en tête avec 77 cas. Nous sommes à environ 35 cas dans la ville de Bukavu. Et jusqu'ici, nous avons des cas de décès dans les structures médicales. Il peut y avoir d'autres cas, mais qui n'ont pas été déclarés. Lorsque vous avez un cas de diarrhée et de vomissement, il faut amener le malade à l'hôpital général de Bukavu où il sera pris en charge gratuitement.
Le docteur Mwanza Nangunia, ministre de la Santé de la province du Sud, qui vont en RDC. Et puis au Tchad, la hiérarchie de l'église catholique de N'Djamena dénonce l'occupation anarchique d'un terrain qui lui avait été octroyé dans la capitale pour la construction d'une basilique. Ce terrain béni par Monseigneur Mathias Ngaoteri, chef de l'église catholique au Tchad peu avant sa mort, est occupé aujourd'hui par les vendeurs de sable, de gravier, de briques et de voitures d'occasion. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Pour beaucoup de fidèles catholiques, ces petits commerçants, vendeurs de produits de carrière et véhicules d'occasion exploitent ce site sacré avec la complicité des autorités de la commune du 7e arrondissement municipal de la ville. Le premier maire de la dite commune, Dr Alaïssam Siad Madi, donne les raisons qui ont amené son institution à exploiter cet espace.
Aussitôt après la pose de la première pierre, nous avons enregistré 7 cas d'assassinat dans cet espace. Mon titulaire de l'époque a mené une réflexion avec certains cadres. Il est question qu'on exploite provisoirement en attendant la décision de construction de la basilique pour éviter les défécations à l'air libre et les différents cas d'assassinat. Mais on s'est rendu compte que cette décision a profité l'installation de certains marchands en désordre.
Le maire de la commune du 7e arrondissement informe par ailleurs qu'avec l'interpellation de l'archevêque de N'Djamena, ils seront délogés de force car, précise-t-il, sur instruction du gouverneur de la région de N'Djamena, l'ordre a été donné 2 fois de suite à ses exploitants de quitter le lieu.
Malheureusement, ils sont têtus et ils sont restés jusqu'à là. Donc actuellement, ils se sont installés dans l'illégalité. Ce qui nous reste à faire, je crois que si nous trouvons un petit moyen pour louer une niveleuse, nous serons dans l'obligation d'aller utiliser les graviers hautes là pour niveler le terrain là, et les faire partir de force.
Et pourtant, ces exploitants payent des droits de place. Mais à qui profite cet argent? Personne ne répond. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Kenya, plusieurs missions d'observation des élections du 8 août dans le pays ont exhorté la Commission électorale nationale ce jeudi à publier au plus vite l'intégralité des procès-verbaux des 40 883 bureaux de vote, indispensables pour corroborer les résultats officiels de la présidentielle contestée par l'opposition. L'opposition a annoncé mercredi son intention de saisir la Cour suprême d'ici l'expiration du délai légal demain vendredi pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix. Victoire que les opposants jugent entachée de nombreuses fraudes. Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane, a fait savoir pour sa part que l'opposition prêchera la paix tout en se réservant le droit de manifester. Reportage Jill Craig, récit Michel Joseph.
Depuis la publication vendredi des résultats de la présidentielle, Raila Odinga avait appelé les membres de sa coalition, NASA, à attendre incessamment ses instructions quant à la conduite à tenir. Mercredi, le principal adversaire du président Kenyatta a mis fin au suspense, annonçant qu'il comptait porter devant la Cour suprême la question de ce qu'il a appelé une élection volée. Il avait pourtant exclu cette possibilité dans ses déclarations passées.
We are going to court. We are not legitimizing misplaced calls.
En saisissant la Cour, nous ne légitimerons en rien les appels déplacés de certains observateurs à concéder la défaite, mais nous voulons donner à ceux qui ont bravé les longues queues et le froid matinal et qui ont attendu tout l'après-midi du 8 août, les mères avec les enfants au dos, les malades, les handicapés, jeunes et vieux, une chance d'être entendus.
People with disabilities, old and young, a chance to be heard.
Affirmant que le système électronique électoral a été piraté, Odinga a intitulé son intervention de mercredi « Les Kenyans disent non aux leaders générés par ordinateur ». La saisine de la Cour suprême est la meilleure option pour lui et sa coalition NASA, estime Herman Manioa, professeur à l'université de Nairobi.
I think this will be the best.
Premièrement, cette approche atténue l'anxiété et la tension dans le pays et les quelques 14 jours que durera le recours judiciaire suffiront pour que les gens se remettent et agissent après réflexion et non sous le coup de l'émotion. C'est comme lorsque l'on s'accorde le temps de porter un deuil.
Raila Odinga a dit qu'il était initialement réticent concernant le recours judiciaire parce que le gouvernement cherchait à faire taire toutes les voix dissonantes. Il a cité la tentative des autorités kenyanes de fermer 2 ONG ayant fait état d'irrégularités dans le scrutin du 8 août. La coalition NASA présentera ses preuves devant le monde entier à travers la procédure judiciaire, a promis le chef de file de l'opposition kenyane, qui n'exclut pas de futures manifestations.
Nous prêchons la paix ainsi que nous l'avons fait et nous ferons valoir notre droit de nous rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des moments de silence pour pacifiquement attirer l'attention sur les grossières injustices électorales et réclamer réparation.
redress.
Selon la commission électorale kenyane, le président Uhuru Kenyatta a été réélu avec 54,3% des voix contre 44,8% à Raila Odinga.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.